Vous êtes sur RTL.
RTL Grand Soir, Mélina Fachin.
Il servira de base à la très attendue réforme des retraites. Le rapport de Jean-Paul Delevoye a été rendu public ce matin. D'abord présenté aux partenaires sociaux, puis remis au Premier ministre, le texte pose les grands axes de la future réforme. Une petite révolution, Armelle Lévy. Fini les trimestres, on parlera bientôt en points.
Oui, et voici la nouvelle devise. Chaque travail mérite salaire et chaque salaire donne droit à des points pour sa retraite. Dans le régime universel en 2025, 100 euros cotisés vaudront 10 points. Et 10 points donneront droit à 5,50 euros par an pendant toute sa retraite. Les points seront majorés de 5% par enfant, dès le premier enfant. Et les personnes les plus précaires avec des carrières hachées auront un minimum retraite équivalent à 85% du SMIC, 1000 euros par mois. C'est 100 euros de plus que le minimum vieillesse actuel. Enfin, pour les pensions de réversion, le régime universel garantira 70% du total des retraites perçues par le couple aux conjoints survivants.
Et l'âge légal de départ à la retraite reste fixé à 62 ans, mais on devrait voir apparaître un âge pivot.
Oui, à 64 ans, si vous partez à 62 ans, vous aurez un malus de 10%. À l'inverse, si vous travaillez après 64 ans, la pension sera bonifiée. La bascule des 42 régimes de retraite dans le nouveau système se fera progressivement à compter de 2025, ce qui veut dire que la génération née en 1963, ceux qui auront donc 62 ans en 2025, seront les premiers concernés. Ils ne se diront plus « je dois avoir travaillé 42 ans pour toucher ma retraite à taux plein », mais « je pourrai partir à 64 ans pour avoir ma retraite à taux plein ». Pour les régimes spéciaux, la transition sera plus lente et progressive et les policiers, pompiers, militaires pourront partir un petit peu plus tôt.
Explication signée Armelle Lévy pour RTL. Et cette réforme, évidemment, est plus ou moins bien accueillie par les syndicats. Le MEDEF salue son ampleur. Sur RTL ce soir, Jean-Eudes Duménil-Dubuisson de la CPME a approuvé le fait de travailler plus longtemps, même s'il estime que cet âge pivot à 64 ans n'est pas une solution. Pour Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, c'est une mesure tout à fait hypocrite.
Le message qu'on veut faire passer aux salariés, aux travailleurs, aux travailleuses aujourd'hui, c'est qu'il faut se mobiliser. Il y a un âge pivot, il y a un âge légal, plus personne n'y comprend rien. C'est prendre les gens pour des imbéciles, surtout. On ne change pas l'âge légal de 62 ans, mais si on part à 62 ans, on aura une décote. Alors que le niveau des pensions est déjà très bas, on va encore avoir moins si on... Donc, de fait, on n'est pas bête, on sait compter. Pour essayer de vivre à peu près, il faudra partir à 64 ans ou 65 ans ou plus, ça dépend à quel âge on a commencé sa carrière. Et vous avez tous noté qu'on commence sa carrière, même pas en CDI, mais sa carrière de plus en plus tard. Donc vous faites l'addition et vous voyez à quel âge on pourra partir avec une pension qui permette à peu près de vivre. Donc c'est de l'enfumage.
Et on en reparlera demain dans le détail de cette réforme des retraites avec le haut commissaire qui en a la charge. Jean-Paul Delevoye sera l'invité de Thomas Hugues sur RTL à 7h40. Le domicile de François de Rugy à Orvault, près de Nantes, a été tagué. On te fera payer. Voilà ce qu'on peut lire sur la façade de l'immeuble. C'est cet appartement qui avait été au cœur d'une des révélations de Mediapart qui ont poussé l'ancien ministre de la Transition écologique à la démission. François de Rugy l'occuperait alors qu'il s'agirait d'un logement à tarif préférentiel. C'est un mensonge, a-t-il réagi ce soir sur Twitter. Il déplore avoir été jeté en pâture et que cela impacte maintenant tous les habitants de l'immeuble.
RTL Grand Soir
avec Mélina Fachin.
Il est 22h04 sur RTL. Trois mois après l'incendie de Notre-Dame, les écoles à proximité vont être nettoyées. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi la mairie de Paris. Il s'agit d'éviter tout risque de pollution au plomb, mais les élus se veulent rassurants. Ce n'est qu'une simple mesure de précaution, affirme-t-il Thomas Dulin, et il n'y a aucun risque pour la santé.
Le taux de plomb dans les écoles autour de Notre-Dame ne dépasse pas les seuils d'alerte sanitaire. Voilà ce que martèle le premier adjoint à la mairie de Paris. Oui, les salles de classe seront nettoyés cet été, mais comme chaque année tente de rassurer Emmanuel Grégoire.
Il y a un nettoyage des murs, il y a un nettoyage du sol très poussé. C'est une opération standard qui est faite tous les étés et dans toutes les écoles de Paris, pas seulement celles concernées par les 500 mètres du périmètre de l'incendie.
L'Agence régionale de santé, plus prudente, rappelle que la contamination au plomb est réelle, notamment sur le parvis de Notre-Dame, toujours fermé. Le directeur général de l'ARS, Aurélien Rousseau, demande d'ailleurs aux riverains de rester vigilants.
Dans l'espace public à proximité du parvis, il faut ne pas recontaminer son domicile, donc il faut régulièrement nettoyer. Ce sont des gestes assez simples, mais qui, depuis le début de cet événement, ont montré leur très grande efficacité, notamment au domicile.
Et l'ARS invite les enfants de moins de 7 ans et les femmes enceintes vivant sur l'île de la Cité à consulter leur médecin traitant pour éviter tout risque de contamination.
Les précisions de Thomas Dulin pour RTL. Pollution toujours, celle des algues vertes. Ce ne sont pas elles qui ont tué un jeune ostréiculteur dans la baie de Morlaix. C'est ce qu'ont révélé les analyses selon le parquet de Brest. Début juillet, après le drame, des associations environnementales avaient pointé du doigt un gaz toxique émis par les algues en décomposition. L'ours de la discorde dans les Pyrénées. Les tensions se multiplient à cause de ces gros mammifères réintroduits dans les forêts de l'Ariège. Les éleveurs de bétail en ont assez de voir leurs troupeaux décimés. Et les agents de l'État chargés des enquêtes sont de plus en plus souvent pris pour cible. Depuis des semaines, ils reçoivent des menaces. Et hier, un véhicule de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a été incendié. Les agents craignent désormais pour leur sécurité, Sinamir.
Oui, devant cette escalade, la direction de l'Office réfléchit même à suspendre les activités de ses agents. Nicolas Alban, le délégué régional de l'ONCFS, s'est rendu ce matin avec la préfète du département à Foix. Écoutez l'inquiétude de ses fonctionnaires au lendemain de cet incendie.
Donc c'est des agents qui sont tous les jours sur le terrain, qui font des dénivelés assez impressionnants pour exercer leur mission de police et de constat de dommages. Ben, est-ce qu'il est encore raisonnable aujourd'hui d'envoyer nos agents sur le terrain, sachant que ce type d'incident arrive, mais aussi des menaces. Et il est assez incompréhensible qu'ils soient la cible d'anti-ours, alors même qu'ils sont là pour aider les éleveurs.
Parce que c'est bien le conflit en toile de fond, la Chambre d'agriculture recense 400 brebis attaquées à la mi-juillet. Philippe Lacube, son président, dit donc comprendre sans la cautionner cette colère contre les agents de l'État accusé d'avoir réintroduit trop massivement le mammifère dans les Pyrénées.
C'est que la montagne a des gueules d'ours et aujourd'hui, la seule solution pour enlever de la pression, c'est enlever des ours du territoire. On ne peut plus continuer comme ça. On va arriver à des catastrophes humaines, vers des gens en vacances ou vers des bergers ou vers des gardes. Il y a trop d'ours aujourd'hui dans les Pyrénées et dans l'Ariège.
On compte actuellement une quarantaine d'ours dans le massif pyrénéen.
Merci Sinamir. Les péages autoroutiers seront désormais gratuits pour les pompiers. Cela peut paraître incroyable, mais jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Sauf s'ils intervenaient directement sur le réseau autoroutier. La mesure va d'abord être appliquée dans les Alpes-Maritimes, puis au reste de la France. Sur le Tour de France, Julien Alaphilippe conserve le maillot jaune, mais le Français le reconnaît. La suite sera très dure. Il va devoir repousser ses limites. Demain, il s'élancera en dernière position lors du contre-la-montre à Pau à 17h19 précisément. Un parcours de 27 km et aujourd'hui c'est le Britannique Simon Yates qui a remporté la 12e étape à Bagnères de Bigorre, la première dans les Pyrénées.